Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamare, iar Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Isei, iar Isei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil, Salatiil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri, și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, după ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună s-a aflat, că ea are împântece din Duhul Sfânt, iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevrând să o vădească, a vrut să o lase nascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa, cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și îl vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, Fecioara va avea împântece și va naște fiul și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Matthieu. Soyons attentifs. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Phares et Zara de Tamar, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nason, Nason engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jesse, Jesse engendra le roi David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abiam. Abiam engendra Asa, Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéhonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéhonias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Zor, Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, qu'on l'appelle Christ. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme droit, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de la répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qu'il a conçu provient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or tout cela se produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Éveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit chez lui son épouse, et sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că ultimele 3-4 duminici am tot vorbit în limba română, o să vorbesc astăzi în franceză și poate o să reiau la sfârșit în limba română câteva din ideile pe care le vreau să le spun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amin. Aujourd'hui, je vais parler en français, je vais essayer d'être très court, parce que nous avons commencé assez tard la liturgie, et après la liturgie, il y aura un baptême, tout de suite après la liturgie, donc je ne vais pas trop allonger ma parole d'aujourd'hui. Donc vous avez vu le catalogue de toutes les ancêtres de Joseph, l'époux de Marie, la mère de Dieu. Vous avez vu qu'on a fait une radiographie de tout l'Ancien Testament, une radiographie de tous ceux qui sont des ancêtres, comme je vous ai dit, des ancêtres de Joseph. C'était la première partie de l'Évangile d'aujourd'hui, et la deuxième partie nous a présenté comment Joseph s'est aperçu que Marie est enceinte. Il voulait la répudier en secret parce qu'il croyait que Marie n'était pas sincère avec lui, qu'elle l'a trompé vraiment. Donc, mais en même temps, il était miséricordieux, il ne voulait pas que Marie soit lapidée par la loi. Donc il voulait la faire répudier en secret. Vous avez vu, l'Évangile nous a raconté tout. Un ange parle à Joseph, il lui dit, voilà, ce qui se passe avec Marie, ce n'est pas une chose humaine. Elle est enceinte par le pouvoir du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, donc ne fait rien de mal à Marie. Lui, il comprend cette parole de l'ange. Elle garde à côté de lui Maria, qui va naître après Jésus, notre Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme pour nous, tous les hommes. Voilà, déjà nous faisons un avant-goût de la fête de Noël par cet évangile que nous venons de lire, d'entendre. Un avant-goût parce que déjà elle nous introduit dans l'atmosphère de la fête de Noël par ce récit de l'enfantement du Christ. Il faut savoir aussi que cette dimanche d'aujourd'hui, on l'appelle le dimanche des sans ancêtres du Christ. Toujours le dimanche qui est avant Noël est appelé comme ça parce que, comme vous avez vu, on a fait mémoire de tous les ancêtres de notre Seigneur. Bon, je m'arrête ici avec l'Évangile parce que je vous la laisse le lire chez vous. C'est bien de faire cet exercice, de relire toujours chez vous l'Évangile qui a été lu dans le dimanche à l'Église. Vous la trouverez facilement dans le calendrier, c'est marqué l'Évangile, l'évangéliste qui a écrit l'Évangile, et le lieu où vous trouvez l'Évangile. Faites ce exercice et prolongez, si possible, toute la semaine, la lecture de l'Évangile de chaque dimanche. La deuxième partie de ma parole sera sur une catéchèse baptismale de Saint Jean Chrysostome. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette catéchèse baptismale dont je voudrais vous lire quelques lignes, pas plus, en vous conseillant aussi de la chercher, de la lire vous-même. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une catéchèse baptismale? Parce qu'il faut savoir que dans le christianisme primitif, dans l'Église primitive, la période avant Pâques et avant Noël, c'était une période préparatoire pour les catéchumènes, ceux qui devaient se baptiser. Donc, une explication pour les carêmes qu'on a encore aujourd'hui, pour le carême de Noël, pour le carême de Pâques, c'est que toute cette période de carême, 40 jours pour Noël et 47 jours pour Pâques, ces périodes de carême étaient des périodes préparatoires pour les catéchumènes. Catéchumènes signifie ceux qui devaient se baptiser. Et ils se baptisaient surtout aux grandes fêtes. Je répète, Noël, Pâques et Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Et si vous serez attentif à la liturgie de mardi, de Noël, vous allez voir qu'au lieu de chanter à la liturgie « Saint Dieu, sans force, saint immortel, aie pitié de nous », le chant qu'on chante d'habitude à la liturgie, les chantres vont chanter « Vous tous qui dans le Christ vous avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ ». Ça on chante pour Noël, ça on chante pour Épiphanie, ça on chante pour Pâques, cette chante on le chante pour la descente du Saint-Esprit, pour Pentecôte. C'est une réminiscence de cette période où les catéchumènes étaient préparés pour le baptême qui avait lieu ou la jour avant la fête, ou la jour même de la fête. Donc vous allez entendre mardi pour Noël, au lieu de Saint Dieu, Saint Fort Immortel, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, vous allez entendre, vous tous qui dans le Christ vous avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Le texte est magnifique. Vous tous qui avez baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtu le Christ. Voilà qu'est-ce qu'il dit Saint Jean Chrysostome sur ce sujet. Les néophytes, les catéchumènes, ceux qui sont déjà baptisés, les néophytes, plus le catéchumène, les néophytes sont comparés à des étoiles dans la conception de Saint Jean Chrysostome. Néophytes, ceux qui sont nouvellement illuminés, nouvellement baptisés, c'est ça le néophyte, sont comparés à des étoiles nouvelles. Et voilà, dans un langage poétique, comment Saint Jean Chrysostome présente ça.
C'est une catéchèse adressée à ceux qui n'étaient déjà baptisés. « Dieu soit béni », dit Saint Jean Chrysostome, 4e siècle. « Dieu soit béni, car voici que de la terre aussi apparaissent des étoiles, plus brillantes que celles des cieux. » Et j'ajouterai, comment ne seront-ils plus brillantes que celles des cieux, les étoiles qui apparaissent après le baptême, c'est-à-dire les néophytes, les nouveaux baptisés, comment ne seraient-ils comme des étoiles quand ils sont revêtus par le Christ, comme dit le chant. Des étoiles sur terre sont les néophytes, à cause de celui qui des cieux est apparu sur terre. Regardez un peu la profondeur du texte. Nous sommes des étoiles. Nous tous qui avons été baptisés, nous sommes comme des étoiles. Grâce à qui? Grâce à celui qui nous entoure. On était revêtus tous dans le Christ. Grâce à celui qui des cieux est apparu sur terre. Il y a un Saint-Père qui dit que le Christ s'est incarné pour que l'homme monte à la dignité d'être Dieu par grâce. On devient des étoiles parce que le Christ est apparu sur terre. Non seulement sur terre, ces étoiles, mais en plein jour. Les étoiles qui brillent en plein jour. Les baptisés sont comparés avec des étoiles qui brillent en plein jour. Deuxième merveille, étoiles de jour sont les nouveaux baptisés, plus éclatantes que celles de la nuit. Car celle de la nuit, il parle des étoiles physiques, s'effacent quand paraît le soleil. Les autres, c'est-à-dire les nouveaux baptisés, quand paraît le soleil de justice, brillent d'un plus vif éclat. As-tu jamais vu des étoiles paraître en plein soleil? On est ici dans plein théologie apophatique, dans plein théologie de la lumière. L'homme qui partage la lumière divine, l'homme qui partage la lumière qui lui vient du Christ lui-même. Il devient comme une étoile qui est brillante, même si le soleil lui-même, c'est-à-dire le Christ, brille d'un vif éclat. Les étoiles qu'on les voit sur le ciel, dit Saint Jean Chrysostome, sont pour disparaître quand paraîtra le fin de ce monde, l'accomplissement. Les étoiles n'y seront plus. Les autres, c'est-à-dire les baptisés, vont devenir plus radieuses encore quand le fin du monde surviendra. Au sujet des premières, c'est-à-dire des astres célestes, l'Évangile dit que les astres du ciel tomberont comme tombent les feuilles de la vigne. Mais par contre, au sujet des nouveaux baptisés, l'Évangile dit « Les justes brilleront comme le soleil au royaume des cieux. » Les justes, les baptisés, brilleront comme le soleil au royaume des cieux. C'est un texte qui, personnellement, me touche profondément parce que, en tant que prêtre, je suis très conscient que chaque baptême, c'est une illumination. Et je dis toujours à ceux qui baptisent leurs enfants, ne venez pas au baptême par une sorte d'obligation. Ne baptisez pas vos enfants parce qu'il faut les baptiser. Parce qu'il faut que les enfants cessent à crier la nuit ou je ne sais pas quoi. Baptisez les enfants parce que vous le revêtez dans le Christ. Les parents et les parraines doivent devenir conscients que leur enfant est revêtu dans le Christ. Que le baptême est une illumination et qu'après l'illumination, leur enfant va briller comme le soleil, comme les astres. En plein jour. C'est comme ça que nous devons comprendre notre baptême. Et c'est comme ça que nous devons un peu revenir sur notre propre baptême. Nous avons été illuminés. Nous avons été revêtus avec le Christ. Et même si le péché nous touche, et il nous touche de manière très dure, même si le péché nous touche, nous restons toujours enveloppés par le Christ, revêtu par le Christ, brillante grâce à la lumière du Christ, comme dit saint Jean Chrysostome. De feu est la nature des astres célestes, du firmament, mais de feu aussi la substance des astres, c'est-à-dire des nouveaux baptisés. C'est incroyable la parole de saint Jean Chrysostome. Nous sommes, ceux qui ont été baptisés, sont de feu. Mais il s'agit, dans le cas des étoiles du firmament, il s'agit d'un feu sensible. Ici, par contre, dans le cas de nouveaux baptisés, d'un feu intelligible. Car il est dit dans l'Évangile, « Celui-là, le Christ, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » L'Esprit, le Christ, va vous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et notre nature devient un feu spirituel. Nous sommes tous baignés dans cet feu immatériel qui est la grâce du Saint-Esprit et que nous portons en nous tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous portons en nous le feu de la grâce du Saint-Esprit. Saint Jean Chrysostome continue avec la présentation des multiples grâces du baptême. Saint Jean Chrysostome continue avec les multiples grâces du baptême. Dieu soit béni, lui seul qui fait des merveilles, lui qui fait toutes choses et les renouvelle. Et soyez attentifs à la description qu'il fait aux états de ceux qui sont baptisés. Ceux qui hier étaient captifs de péché sont aujourd'hui des hommes libres et citoyens de l'Église. Ceux qui hier étaient dans la honte du péché sont maintenant dans l'assurance et la justice. Ils sont non seulement libres, mais saints. Ils sont non seulement saints, mais justes. Ils sont non seulement justes, mais fils. Ils sont non seulement fils, mais héritiers. Ils sont non seulement héritiers, mais frères du Christ. Le baptisé devient le frère du Christ. Non seulement frère du Christ, mais ses co-héritières. Non seulement ses co-héritières, mais ses membres. Non seulement ses membres, mais des temples du Saint-Esprit. Non seulement des temples, mais des instruments du Saint-Esprit. Dieu soit béni, lui qui seul fait des merveilles. Tu as vu en quel nombre sont les bienfaits du baptême? C'est pour cette raison que nous baptisons même les petits-enfants, bien qu'ils n'aient pas de péché, pour que leur soit ajoutée la justice, la filiation, l'héritage, la grâce d'être frère et membre du Christ et de devenir la demeure du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire le texte. Nous baptisons les enfants pour les faire héritiers de la grâce de Dieu, pour les faire des temples de Dieu, même s'ils n'ont pas de péché. L'enfant devient le temple de la grâce du Saint-Esprit par le baptême. Je m'arrête ici parce que la catéchèse est très longue de saint Jean Chrysostome. Elle a aussi une partie morale très intéressante où il parle de conscience, de la conscience avec laquelle nous présentons devant la Sainte Communion. Attention, tous les pères, ils attirent l'attention sur comment est-ce que nous, on se présente devant l'Eucharistie. Parfois, quand je sors avec le calice, je dis, voilà, ceux qui sont confessés et ceux qui ont reçu la bénédiction de leur père spirituel pour communier, c'est que ceux qui peuvent communier. Attention, il n'y a pas mes paroles. J'insiste sur cette conscience éveillée devant l'Eucharistie parce que je considère que nous ne pouvons pas nous présenter devant le Christ dans n'importe quel état de l'esprit. Nous devons avoir la conscience que nous sommes revêtus de Christ. Nous devons avoir la conscience que le Christ nous fait briller comme des étoiles, comme dit saint Jean Chrysostome. Nous devons avoir la conscience que le Christ demeure en nous. Si on a cette conscience, on peut venir devant le calice. Si on vient devant le calice seulement parce que on sent que ça nous fait du bien ou que ça peut nous aider d'une certaine manière, ne venez plus. Saint apôtre Paul, il est très dur. Il dit, pour ça, il y a des malades parmi vous, et même des gros malades, des malades très graves, parce que vous venez devant le calice avec conscience impure. Sans avoir la conscience que dans le calice, il y a le Christ lui-même qui se donne aux hommes. Parce que nous venons de lire l'Évangile qui nous raconte la venue du Christ, l'enfantement du Christ. Parfois j'entends avec douleur de nos frères chrétiens orthodoxes, quand on a des baptêmes, toujours, parfois, que le prêtre va donner à l'enfant baptisé un peu du pain et un peu du vin, sans qu'il sache pas avec quoi l'enfant communie dans le moment de leur communion. Pour nos bons chrétiens orthodoxes, dans le calice, il n'y a que du pain et du vin. Malheureusement, on n'a pas la conscience de qui se donne au baptême et à chaque liturgie. Qui vient faire en nous la demeure? Qui? Une simple goutte du vin, une simple miette du pain? Comme ça, la liturgie n'a pas de sens. Si on fait donner aux gens que du vin et du pain simple, ça n'a pas de sens de faire la liturgie. C'est un théâtre. Et si vraiment dans la liturgie, c'est le Christ qui se donne sous la forme du pain et du vin, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi cette manière, mais il a choisi cette manière. Si on a cette foi, c'est une foi, c'est difficile à comprendre du point de vue de la raison. Mais c'est une foi. On croit que dans le calice, quand on vient communier, il n'y a pas du pain et du sang, du pain et du vin, mais il y a vraiment le corps du Christ. C'est ça qu'il dit le chantre chaque fois avant que les fidèles commencent à communier. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, etc., etc., etc. Je m'arrête ici en vous conseillant de trouver sur Internet. Vous la trouvez facilement. Sur Internet, vous cherchez Saint Jean Chrysostome, les catéchèses baptismales, et vous allez voir, il y a 8 ou 9 catéchèses baptismales. Qu'est-ce qu'il faisait Saint Jean Chrysostome? Il préparait les gens qui voulaient se baptiser. Il préparait dans cette période avant Noël ou avant Pâques, il avait toute une période de catéchuménat. Catéchuménat, on appelle ça, période préparatoire de ceux qui voulaient se baptiser. Cherchez et lisez Saint Jean Chrysostome. C'est simple, il n'y a pas une théologie compliquée, parce qu'il parlait aux gens simples, il ne faisait pas de la philosophie. Et vous allez trouver dans toutes ces paroles une richesse, vraiment une richesse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la grâce de sentir comme il faut la fête de Noël, la fête de la naissance de Christ, qu'on le sent vraiment, que c'est une... C'est un événement pour nous, que c'est une incarnation qui a été faite pour nous, pour chacun d'entre nous. Moi, vous, toi, c'est pour nous. C'est pour que nous soyons ici dans la divine liturgie, pour que nous pouvions communier avec le corps et le sang de Christ lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse.